ou de défense des droits humains sans avoir commis de crime.
Vladimir Sliviak avec Nina Desesquiel. Il est midi 10 à Paris dans un instant.
Merci beaucoup à RFI pour son journal midi 10 également à Bordeaux où vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur la situation en Nouvelle-Calédonie et sur les forts relents colonialistes de cette actualité en compagnie d'un Kanak qui est membre du mouvement des jeunes Kanak. Et puis, on annoncera également la Sarabande, deuxième du nom, mobilisation contre la LGV qui aura lieu ce week-end dans le Lot et Garonne. On commence avec d'autres infos en bref, à commencer par Total, ses actionnaires et la multinationale Total qui sont visés par une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Hier, 8 victimes du changement climatique et 3 ONG ont porté plainte au tribunal judiciaire de Paris. Ces ONG, il s'agit de Bloom, Alliance Santé Planétaire et la mexicaine Nuestro Futuro. Les dirigeants et actionnaires sont encore accusés d'homicide involontaire et d'abstention de combattre un sinistre et des atteintes à la biodiversité. Les dirigeants de Total sont au courant depuis plus de 50 ans des conséquences catastrophiques de leurs activités, rappelle le média reporter.net. Ils ont choisi de persévérer en sachant pertinemment que cela mettrait en danger des personnes, dénonce notamment l'ONG Bloom. L'Assemblée générale de Total doit justement avoir lieu ce vendredi 24 mai. Attention à ce que vous votez, lancent ainsi les ONG aux actionnaires. Votre responsabilité pénale est engagée. Fin de citation. On revient à Bordeaux, avec l'université Bordeaux-Montaigne qui ne connaît toujours pas son futur président. Le conseil d'administration devait se prononcer hier à travers un vote, mais les deux prétendants sont arrivés à égalité. Lionel Larré, le président sortant, et Alexandre Perrault, son challenger, ont réuni chacun 15 voix. Certains syndicats ont refusé de se prononcer, tout comme les représentants des collectivités locales. Un nouveau vote doit donc avoir lieu le 5 juin prochain et un nouvel appel à candidature a été lancé. Rappelons que les élections de ce printemps ont eu lieu sur fond de mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles et que la prise en compte de ces questions par le ou la future présidente sera particulièrement observée. Bordeaux, toujours avec la flamme olympique qui sera de passage ici demain après-midi. Attention, si vous circulez à ce moment-là, ça risque d'être bien compliqué. Parmi les sujets que soulève l'organisation de cette compétition internationale, il y a la vidéosurveillance. Les JO et les JO paralympiques ont fourni à la France l'occasion de légaliser la vidéosurveillance algorithmique. Et des collectifs craignent l'arrivée prochaine de la reconnaissance faciale en France. Reconnaissance faciale qui marquerait le basculement vers une société de surveillance encore plus aboutie. C'est le cas parmi ces collectifs qui craignent cela. C'est le cas d'Amnesty International qui a lancé une campagne sur ce sujet et qui est présente pour en parler à Bordeaux aujourd'hui, ce mercredi, de 10h à 18h sur la placette de Munich. C'est sur les quais entre les Quinconces et la place de la Bourse. Et nous, on reviendra sur ce sujet à travers la chronique des Clés des Libertés demain midi dans le plat de résistance. Enfin, à l'agenda, deux événements. Un débat sur la politique française et la politique européenne de l'asile et de l'immigration seront présents pour décrypter cette question des membres de la Ligue des droits de l'homme, de la CIMAD, de l'Institut de défense des étrangers, de Médecins du Monde ainsi qu'un député européen, Damien Carême, pour cette discussion donc, qui aura lieu ce mercredi soir à 18h30 à la Halle des Douves à Bordeaux. Et puis, deuxième événement, ce sera ce samedi. Le combat contre la réforme du collège se poursuit, notamment contre l'introduction des groupes de niveau. La prochaine étape, ce sont donc des manifestations dans toute l'académie ce week-end, dans chaque département, à l'appel des syndicats UNSA, CFDT, FO, FSU, Sud, CGT et également de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves. Pour Bordeaux, le rendez-vous est donné donc ce samedi à 14h, place Stalingrad. Midi 14 sur la clé des ondes. Alors, on avait dit que cette année serait décisive pour le projet de LGV entre Bordeaux, Toulouse et Dax. Et effectivement, les mobilisations ne s'arrêtent pas. Après une première sarabande qui avait eu lieu en septembre 2023 en Gironde, après la grande vadrouille le 20 avril dernier à Cadojac, juste au sud de Bordeaux, C'est la Sarabande 2 qui aura lieu ce week-end. Une Sarabande qui partira samedi du Sud Gironde à Saint-Michel de Castelnau pour se rendre jusqu'à Vianne dans le Lot-et-Garonne dimanche. On évoque tout de suite cette mobilisation avec un membre du collectif Stop LGV 47 qui est l'organisateur de cette mobilisation. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous pour évoquer cette mobilisation. Alors peut-être commencer avec un mot sur ce collectif Stop LGV 47. C'est quoi son histoire, ce collectif, Sébastien ?
Alors Stop LGV 47 a été créé en regroupant différentes associations qui existaient auparavant. Donc cette création, elle date de février 2023. Et en particulier des associations historiques qui luttaient déjà contre la LGV, comme Très Grande Vigilance en Albret, ou comme l'association de sauvegarde des coteaux des Landes de Gascogne, et puis aussi donc des associations environnementalistes du 47, du Lot-et-Garonne.
C'est quoi, vous, dans le 47, dans le Lot-et-Garonne, c'est quoi les raisons principales pour lesquelles vous vous opposez à la construction de cette ligne LGV ?
Alors il nous semble que c'est un projet démesuré par son coût, par les destructions qu'il va occasionner avec l'artificialisation de 4800 hectares, et que donc cette démesure, elle est surtout donc à mettre en relation avec un gain limité de temps sur par exemple le trajet Bordeaux-Toulouse, ce serait une heure avec la LGV. Mais nous, on défend plutôt la rénovation des lignes existantes qui permettrait de gagner une demi-heure. Donc finalement, le coût global du budget initial, c'est 14 milliards pour gagner une demi-heure, soit la différence entre une heure par la LGV et puis une demi-heure pour la rénovation des lignes.
Et alors, vous, dans le Lot-et-Garonne, vous avez une situation rien que géographique particulière, et donc qui amène, j'imagine, une situation particulière par rapport à ce projet, c'est que vous êtes entre Bordeaux et Toulouse, et on sait que le principe de ces LGV, c'est d'être quand même des tunnels où on va très vite d'un endroit à un autre, mais ce qu'il y a entre les deux ne compte pas trop. Il me semble qu'il y a une gare qui est prévue, c'est celle d'Agen, sur ce projet, une gare LGV, une nouvelle gare qui s'installerait à Agen. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, ben voilà, on va profiter de cette ligne, ou est-ce que c'est plutôt cet effet tunnel que vous appréhendez, Sébastien ?
Alors, il y aura forcément des TGV qui vont s'arrêter effectivement à proximité d'Agen, mais là encore, le gain de temps pour les habitants de la ville d'Agen sera limité, puisque la gare TGV, elle est en dehors du centre-ville, donc il y aura un temps de trajet pour s'y rendre depuis Agen, ce qui va annuler une partie du gain de temps par la grande vitesse. Donc oui, ça profitera, certains trains s'arrêteront dans le Lot-et-Garonne et ça profitera un petit peu à des Lot-et-Garonnais, mais nous on pense aussi que c'est l'ensemble des habitants qui sont à moins d'une heure de ces gares qui vont participer au financement, alors que la plupart de ces habitants n'ont pas besoin de gagner quelques minutes pour rejoindre Toulouse ou pour rejoindre Bordeaux.
Oui, puisque dans les communes du Lot-et-Garonne sont elles aussi soumises à cette fameuse taxe LGV, c'est ça, pour financer le projet ?
Oui, la règle, c'est toutes les communes qui sont à moins d'une heure d'une gare desservie par une LGV.
Vous parliez de la question des terres également. Il me semble que il y a une nouvelle gare qui serait construite, puisque la gare, j'imagine, pour les ingénieurs qui ont conçu le projet, la gare actuelle d'Agen n'est pas bien adaptée pour une ligne grande vitesse. Donc il y aurait une nouvelle gare installée à Brax, à 7 km de la gare actuelle d'Agen. Et puis les collectivités en profitent pour pouvoir construire un technopôle qui peut être connu par certains auditeurs, auditrices, pour l'opposition que ce technopôle avait suscité en 2015. Il y avait eu une ZAD à Sainte-Colombe en Bruyois contre la construction d'un technopôle. Donc c'est une sorte de zone industrielle. C'est ça qui a vu le jour depuis, avec là aussi des terres agricoles détruites, Sébastien ?
Oui, oui, c'est ça. Effectivement, il y a eu une lutte les années précédentes autour de syndicats agricoles notamment qui effectivement se sont opposés à ce projet de technopole qui existe déjà, effectivement, sur les communes dont vous avez parlé.
Alors, on va dire un mot maintenant de cette mobilisation de ce week-end. Donc, il y avait déjà eu, je l'ai dit, une première sarabande en septembre de l'année dernière. Cette fois-ci, rebelote, donc sur deux jours, avec 40 km parcourus samedi, 20 km le dimanche. Donc, on partira en fait de l'extrême sud de Gironde pour aller vers l'est et vers le Lot-et-Garonne. C'était quoi l'idée au départ de cette sarabande? Pourquoi ce mode-là de manifestation sous forme de sarabande, de déplacement comme ça à travers plusieurs villages le long de ce département, Sébastien?
Alors c'est précisément le long du tracé de la LGV, c'est vraiment les communes, ça va concerner les communes qui seront sur ce tracé de la LGV dans le Lot-et-Garonne. L'idée c'était de reprendre la sarabande là où la première s'était arrêtée, effectivement à Saint-Michel-de-Castelnau. Et nous, notre objectif pour le collectif Stop LGV 47, c'est d'informer les habitants, parce qu'il nous semble que pour l'instant, le niveau d'information reste insuffisant. Donc, beaucoup de personnes ignorent le coût dont j'ai parlé tout à l'heure, ignorent de nombreux enjeux. Donc nous, c'est notre objectif. La sarabande, elle se déroulera avec des mobilités douces par opposition à la grande vitesse. On peut la faire en vélo, on peut la faire avec son véhicule personnel, évidemment. Et surtout, ce sera un événement festif avec de nombreuses animations, avec évidemment aussi des prises de parole pour informer les participants.
Donc effectivement, le tracé de ce déplacement va suivre le tracé de la LGV, c'est ça plus ou moins. Il y a par où ça passe, c'est quoi, à quoi ça ressemble cet espace là, cette zone là du sud Gironde et de l'ouest du Lot-et-Garonne, Sébastien?
Alors c'est une zone de forêt, on passe par des petites communes, les communes sur lesquelles se déroulera cette sarabande, ça va être par exemple notamment Pindaire ou Pompogne, et puis Fargues-sur-Oubise le samedi soir. C'est là qu'il y aura une étape importante avec des concerts, avec une soirée complète à Fargues-sur-Oubise. Et le lendemain, le dimanche, on continue pour aller vers Vianne dans l'après-midi, avec là aussi deux concerts entre 14h et 16h, et on sera à Vianne dès... deux concerts entre 16h et 18h, et on sera à Vianne dès 14h30.
Et donc, alors, on va revenir sur ces concerts, mais il y a aussi des animations, c'est ça, un peu à chaque arrêt, des animations, des surprises dans la programmation?
Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut en dire pour donner envie un peu?
Eh bien que par exemple on sera alors à Casteljaloux. Alors Casteljaloux n'est pas, donc ça c'est pour le samedi matin. Casteljaloux n'est pas sur le tracé. Donc là on fait une petite entorse au tracé, mais donc c'est un moment important à partir de 10h à Casteljaloux. Il y aura des percussions, une promenade festive, une manifestation joyeuse. Et puis il y aura des animations théâtralisées, il y aura des formes de débat aussi théâtralisées, donc différentes préparations du collectif pour rendre ces deux jours agréables, pour permettre de s'informer et de réfléchir de manière festive.
Et puis j'ai vu aussi qu'il y aurait une balade avec les naturalistes des terres, c'est ça, sur un des lieux, une partie du tracé de la LGV?
Oui, donc ça ce sera sur la commune de Pompogne à partir de 15h45 samedi 25, effectivement, donc une heure de promenade sur un site avec donc la participation d'une association qui s'appelle les Naturalistes des Terres, qui vont parler de nature, parler de tout ce que menace les grands aménagements comme le grand projet du Sud-Ouest.
Alors sur le flyer de présentation, le flyer du programme, il y a pas mal de logos d'orga qui soutiennent. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est qui est-ce qui soutient, qui participe jusque-là à cette mobilisation, Sébastien, de collectif Stop LGV 47?
Alors, de nombreuses associations qui sont au sein du collectif. Et puis ensuite, en dehors du collectif du 47, nous sommes nous en lien avec de très nombreuses autres associations et collectifs. Ça peut aller du CAD dans le Pays Basque, donc des associations girondines. Et puis on est tous regroupés au sein de LGV Non Merci, qui dispose d'un site internet où il y a des informations très riches et très approfondie. Donc moi j'engage toute personne qui se pose des questions sur ce projet à rejoindre, enfin à aller s'informer sur lgvnonmerci.fr. On trouve beaucoup de choses.
Et les mairies, les collectivités locales, comment elles se positionnent? On a parlé de cette taxe-là sur les communes. Est-ce qu'il y a aussi du soutien de la part de certaines mairies dans le Lot-et-Garonne, Sébastien?
Oui, bien sûr, c'est le cas de Casteljaloux qui nous accueille, ou de Vianne aussi pour certaines étapes, ou de Fargues-sur-Ourbise. Donc, certains élus sont favorables à la LGV, d'autres sont avec nous en lutte contre les destructions qu'elle occasionnera, ou qu'elle occasionnerait, parce que nous, on souhaite qu'elle ne voit pas le jour. J'ajoute que de nombreux recours juridiques ont été déposés auprès de tribunaux administratifs, et en particulier un collectif de 80 élus du Sud Gironde a donc déposé un recours contre les frais non programmés du grand projet du Sud-Ouest, et puis contre le fait que toutes les collectivités territoriales ont signé un protocole où elles s'engagent à couvrir les éventuels dépassements qui sont évidemment prévisibles. Donc le problème financier est important pour les collectivités territoriales et les habitants vont avoir à payer encore pendant de nombreuses années cette LGV.
Peut-être juste un dernier mot. Pour ce qu'on connaît, nous, à côté de Bordeaux, on a l'impression qu'en Sud-Gironde, il y a une mobilisation qui commence vraiment à prendre avec de plus en plus de personnes qui sont au courant de cette question et qui ont envie de se bagarrer contre la LGV. Vous avez l'air de dire qu'en Lot-et-Garonne, c'est encore un petit peu... C'est pas encore ça, qu'il y a encore assez peu d'informations, beaucoup de désinformations sur ces questions-là. C'est ça, il y a un vrai effort de ce point de vue-là pour faire connaître ce projet, ce qui l'entraînerait et les alternatives possibles, Sébastien ?
Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'effectivement qu'on multiplie ces dernières semaines les actions. Donc il y a eu Cadojac dont vous avez parlé dans le sud de l'agglomération bordelaise. On a aussi déployé un grand nombre de panneaux sur les 213 communes du Lot-et-Garonne pour informer que effectivement les habitants paient cette taxe qui s'appelle la taxe spéciale d'équipement, qui est sur la taxe foncière depuis déjà l'année dernière. Et c'était en lien aussi avec des collectifs de Gironde, des communes de Gironde ont eu aussi ces panneaux qui annonçaient la présence de cette TSE, de cette taxe LGV.
Merci beaucoup Sébastien, je rappelle membre du collectif Stop LGV 47. On rappelle donc que toutes les infos peuvent être trouvées sur le site lgvnonmercitoutattaché.fr. Et on va terminer par un des groupes qui sera en concert ce samedi, je crois, King Kong Blues, avec ce titre fort à propos, Le Train. Merci beaucoup Sébastien.
Merci, au revoir.
Le train King Kong Blues, voilà, ça réveille. Midi 30 sur la clé des ondes, et ben voilà, depuis la semaine dernière, on disait comment on parle, comment on fait écho à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et qui nous paraît comme bien atroce ces derniers jours. Et c'est Gérard Clabé qui est venu nous aider et nous apporter la réponse à ça. Salut Gérard.
Salut.
Gérard Clabé, du guide du Bordeaux colonial, bien sûr, qu'on entendra d'ailleurs juste après à partir de 13h. Je te laisse la parole pour ce sujet sur la Nouvelle-Calédonie.
Oui, et merci à Jean-Luc Ottili qui, au congrès de la LDH samedi dernier, où nous étions, la Clé des Ondes, m'a mis en contact avec François Carré, que nous allons avoir en direct tout de suite. Alors, un petit rappel de la situation. La crise actuelle est très grave. Elle rappelle celle pas si ancienne que certains semblent avoir déjà oubliée pourtant, et c'est pas le moins tragique de l'affaire. Elle rappelle la grave crise de 1984-88 qui avait failli tourner à la guerre civile entre Kanak et Caldoche, avec l'épisode traumatique de la grotte d'Ouvéa en avril-mai 1988. Et cette crise de 84-88, elle avait fait au total 90 morts sur une population à l'époque de 160 000 personnes. Alors, Mitterrand, réélu en mai 1988, nomme Michel Rocard Premier ministre, et celui-ci se fixe immédiatement comme priorité de trouver une solution pacifique aux problèmes néo-calédoniens et désigne, 5 jours plus tard, une mission. D'ailleurs, c'est assez marrant, une mission, c'est le même terme qu'utilise Macron aujourd'hui, une mission de dialogue. Ça, c'est pas le terme qu'utilise Macron aujourd'hui, pour préparer les négociations. Et cette mission arrive sur le territoire le 20 mai 1988. C'est presque jour pour jour, 36 ans plus tard, rendez-vous compte. Et à la suite de cette mission, eh bien, l'État, les loyalistes et les indépendantistes se retrouvent à Paris, à Matignon, pour signer les accords Matignon le 26 juin 1988, où on décide de l'amnistie, où on décide du gel du corps électoral pour que la population kanak reste majoritaire dans les élections, et on décide du découpage en 3 provinces. 10 ans plus tard, c'est l'accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998 à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie, toujours sous l'égide du Premier ministre Lionel Jospin à cette époque. Et l'accord prévoit des transferts de compétences irréversibles en Nouvelle-Calédonie dans de nombreux domaines, à l'exception de ceux de la défense, de la sécurité, de la justice et de la monnaie. 3 référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie sont prévus par l'accord, avec la question claire suivante: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Mais je ne peux pas m'empêcher, avant l'entretien et l'interview en direct, de vous lire une partie, toute petite partie, du texte original de l'accord de Nouméa. Écoutez ça. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie s'est inscrite dans un vaste mouvement historique où les pays d'Europe ont imposé leur domination au reste du monde. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. On peut dire qu'on est assez loin, malheureusement, de l'esprit de ces accords, notamment du point de vue de l'exécutif hexagonal actuel avec Macron et Darmanin. Alors bonjour François Carré.
Bonjour.
Alors vous êtes à Vancouver, vous rendez compte, la grande métropole sur la côte ouest du Canada, sur la côte pacifique. Il est quelle heure à Vancouver?
Alors il est exactement 3h34 donc en Colombie-Britannique, donc dans la ville de Vancouver. Et donc j'interviens effectivement pour à la fois soutenir mes camarades du MJKF qui sont dans l'Hexagone. On est en fait un certain nombre à essayer de répondre aux sollicitations à la fois des médias, mais aussi du mouvement syndical, des associations comme la Clé des Ondes d'ailleurs. Je fais un petit bonjour effectivement à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la Clé des Ondes. Et pour nous, c'est important effectivement de marquer notre présence à la fois dans les médias, mais aussi pour répondre à un certain nombre de controverses, mais aussi de contre-vérités qu'on peut entendre de ci et de là, à la fois en direct des JT ou d'autres débats, effectivement, sur la question de la Nouvelle-Calédonie, qui revient effectivement en plein fouet dans le débat à la fois politique internationale et nationale, et puis une répercussion assez importante avec les derniers événements dans le Grand Nubia, en Nouvelle-Calédonie.
Alors François Carré, vous êtes Kanak, hein, vous êtes né en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, où sur l'archipel?
Je suis Kanak et je suis originaire de la commune de Wailou, donc qui est une commune en fait qui se situe dans le centre de la Grande Terre, la plus grande île. En fait, la Nouvelle-Calédonie, c'est la Grande Terre, plus les trois îles de loyauté, avec quelques îlots, les îles de Belep, et un peu plus au nord, à l'extrême nord, les îles Chesterfield. Donc, en fait, c'est une sorte d'archipel. Et moi, je suis originaire d'une commune de 4000 habitants qui est située sur la côte est de la Grande Terre.
Et vous nous avez dit que vous étiez membre du MJKF, le mouvement des jeunes Kanaks en France. Pouvez nous présenter assez rapidement le mouvement? Merci.
Alors, assez rapidement, le MJKF a été créé en fait en 2008-2009. C'était d'abord en fait un groupe de réflexion qui s'est interrogé effectivement sur comment pérenniser le travail d'information sur la Kanaky, la situation sociale, la situation politique, et puis pouvoir être en alerte de ce qui peut se passer, concernant les problèmes sociétaux que peut rencontrer la Nouvelle-Calédonie, mais aussi participer à des débats sur l'anticolonialisme, sur ces questions effectivement de relations de solidarité, donc avec d'autres mouvements sociaux qui peuvent exister en France ou à l'international.
Ok, alors la crise actuelle en Kanaky, Nouvelle-Calédonie est très grave, particulièrement grave. Elle était malheureusement tout à la fois, on pourrait dire, prévisible et donc évitable.
Alors c'est à la fois prévisible, mais c'est aussi la conséquence effectivement d'un télescopage de provocations. Et ça, on peut le remonter en fait, si on peut situer de manière chronologique. Aux élections provinciales de mai 2019, la venue sur la scène politique et la création de l'EDI océanienne, qui est une organisation politique qui a été mise en place par la communauté wallisienne et futunienne, qui pour une fois de l'histoire politique insulaire, la communauté wallisienne a décidé de prendre son autonomie politique, puisque cette communauté a été des années, voire des décennies, l'objet d'instrumentalisation de la part de la droite coloniale, donc en Nouvelle-Calédonie, donc souvent de réserves électorales. Et donc cette communauté a été souvent caricaturée comme une sorte de peau de voix, etc., pour renforcer l'électorat réactionnaire. Et donc, une partie de cette communauté et la génération qui est venue après les événements de 84, la génération au sein même de cette communauté, a décidé de s'autonomiser et de s'organiser. Donc, en défendant effectivement à la fois les intérêts de la communauté wallisienne et futunienne, mais en affirmant une forme de singularité à la fois entre les indépendantistes et la droite coloniale en Nouvelle-Calédonie. C'est important effectivement de souligner l'émergence de ce parti politique, puisqu'elle a permis l'élection, d'abord de faire une majorité au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie à l'issue des élections provinciales de mai 2019, et de nommer effectivement pour la première fois au Congrès de la Nouvelle-Calédonie Roch Ouamitan à la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi former le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, gouvernement majoritaire indépendantiste, quoi. Donc, avec l'élection de Louis Mapou. Louis Mapou, qui est un responsable politique de l'UNI.
Et alors, pour revenir aux sources. Alors, oui, pardon.
Alors, pour revenir aux sources, cette nouvelle donne a changé effectivement le rapport de force donc au sein même des institutions, et donc a fait l'objet effectivement d'un certain nombre de débats, de rapports de force entre la droite colonelle et le mouvement indépendantiste. Les référendums arrivent. Le premier référendum se tient effectivement en 2018.
On peut rappeler les chiffres qui sont importants. En 2018, premier référendum, 40% de oui pour l'indépendance, avec une participation de 80%. En 2020, 47% de oui, donc le oui augmente, 85% de participation. Et en 2021, je vous laisse dire, parce qu'en 2021, ça bloque.
Alors, ce qui est intéressant dans ces deux référendums, entre le référendum de 2018 à 2020, les indépendantistes ont réussi à réduire l'écart entre donc les partisans du non et puis les partisans de, enfin, en tout cas, de leurs propres résultats. Et je pense que la droite coloniale a pris peur, donc la plupart des responsables politiques et même l'État a pris peur. Et à la suite de référendum, donc du référendum de 2021, on est en plein, on était en plein pandémie du Covid.
Nous sommes en décembre 2021.
Voilà, en décembre 2021, donc il y a eu effectivement la pandémie de Covid qui est arrivée sur le territoire il y a quelques mois avant. Et l'État voulait absolument effectivement mettre en place effectivement ce référendum pour résoudre effectivement la fin des la série référendaire, quoi, donc le processus référendaire. Et à l'époque, la communauté kanak et océanienne était confrontée effectivement à une hécatombe. Donc beaucoup de kanak et d'océaniens subissent des comorbidités. Et ont été victimes effectivement du virus. Donc il y a eu de nombreux, noirs, donc au sein même de la communauté kanak et océanienne. Et comme dans la culture kanak, il faut un temps pour le deuil, il faut un temps pour le rituel, il faut un temps effectivement pour préparer effectivement l'enterrement et les coutumes, recevoir effectivement les clans, puisqu'il y a une organisation sociale propre au peuple kanak. Et malgré effectivement ces interpellations de l'État n'a rien voulu entendre. Donc, vu à ce refus catégorique, le mouvement indépendantiste n'a pas décidé de boycotter, mais a décidé de ne pas participer. De ne pas participer pour bien signifier effectivement qu'à l'État que le fait d'un refus est une posture effectivement complètement inique à l'égard du peuple kanak.
Ouais, le résultat
est quand
c'est
même
qu'il y a...
déterminant.
Oui,
pardon. Est quand même déterminant dans la légitimisation de ce référendum en 2021. Donc il y a une participation, effectivement, il y a eu
57% d'abstention, c'est-à-dire que en fait, il faut analyser ces 57% d'abstention comme l'expression kanak indépendantiste.
Oui, comme un désaveu effectivement de ce référendum 2021 et moralement et politiquement, voire juridiquement, ce référendum ne tient pas, n'a aucune légitimité.
Voilà.
Donc,
même s'il est
dans le processus référendaire. Et donc, bien évidemment, la droite coloniale s'est saisie effectivement des résultats de ces trois référendums pour fonder leur contre-offensive.
Voilà. Et ils ont considéré, ces loyalistes, anti-indépendantistes, cette droite radicale quand même, et ils vont considérer que ce troisième référendum, c'est une victoire définitive pour eux, qui leur donnait toute la force, et ils se sont organisés. Et l'État français, et ça c'est important, c'est un grand moment de bascule, l'État français sort de sa position d'arbitre, notamment depuis la transmission du dossier néo-calédonien du Premier ministre au ministre de l'Intérieur. Et l'État français a déroulé le tapis, on pourrait dire, à cette droite radicale anti-indépendantiste. Et Macron se retrouve aujourd'hui, il est dans l'avion là pour Nouméa, avec ce déplacement express en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, il se retrouve dans la peau du pompier pyromane.
Ah ben c'est oui du pompier pyromane, mais c'est d'une certaine forme d'arrogance. C'est plutôt de l'arrogance effectivement qui met en avant quoi. Donc il met en avant. Mais toute cette arrogance en fait a commencé quand il a nommé effectivement Madame Sonia Baquez présidente de la province sud au poste de secrétaire d'État. Et ensuite à l'issue de législatives. Avec la nomination de Nicolas Metzdorf, ils étaient tous les deux effectivement presque en concertation avec l'État, et donc l'État a perdu effectivement non seulement son rôle d'arbitre à plusieurs occasions, à plusieurs rendez-vous effectivement des discussions sur l'avenir institutionnel sur la Nouvelle-Calédonie, et une prise de position effectivement commune sur d'ailleurs illustrée effectivement par le vote du dégel électoral.
Voilà, donc l'État a cessé d'être arbitre et protecteur des Kanaks. Et alors on arrive à la réforme électorale. Alors on rappelle qu'il s'agit d'élargir le corps électoral pour les élections aux trois assemblées provinciales, province Nord, province Sud et île Loyauté, et au Congrès. Et pour les référendums, un corps électoral qui était figé depuis les accords de Nouméa.
Oui, alors c'est important de le dire parce que toute l'argumentation de cette droite colonialiste ou cette droite coloniale est de dire que en fait une bonne partie des Français n'ont pas le droit de voter. N'ont pas le droit de voter et carrément ils sont quasiment effectivement inexistants. Il existe en fait en Nouvelle-Calédonie trois corps électoraux. La liste générale, là n'importe quel Français effectivement peut, ça concerne effectivement les élections présidentielles, ça concerne effectivement les élections législatives, ça concerne aussi les élections européennes et municipales. Donc n'importe quel Français lambda qui débarque de son Cantal natal peut voter effectivement dans une simple commune. C'est une simple procédure qui est réservée aux citoyens français. Donc ils ont ce droit de vote là. Il y a le corps électoral provincial qui est restreint depuis d'abord qui a été restreint à l'issue de l'accord Matignon-Oudinot, mais en 1998, c'était donc il y a eu encore des discussions effectivement pour pouvoir effectivement soit réinscrire des gens qui ont vécu ici, qui ont pu justifier des biens matériaux, des biens moraux avec la Nouvelle-Calédonie, donc pour la liste provinciale. Et puis, il y a la liste référendaire. La liste référendaire est basée effectivement sur une partie de la liste provinciale, liste électorale provinciale, et avec soit le rajout, soit la limitation effectivement d'un certain nombre de citoyens français sur la liste référendaire. Donc, le dégel électoral, oui.
Et oui, et alors Darmanin raconte à qui veut l'entendre que le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, qui rassemble quatre partis, il dit que le FLNKS avait donné son accord au dégel, alors que cette concession, entre guillemets, était soumise à un accord global.
Alors, c'est le gouvernement, en fait. C'est le gouvernement, avec l'appui de la droite coloniale, qui ont voulu imposer, effectivement, qu'on dissocie. On dissocie effectivement le dégel électoral d'un accord global. Donc, comme la stratégie du FLNKS était effectivement de répondre à toutes les discussions et de proposer effectivement dans ces espaces, face à la droite voulait effectivement qu'il y ait que les gens qui puissent, les gens qui arrivent, donc qui peuvent justifier de 3 ans, je crois, de 3 ans ou d'un an de résidence en Nouvelle-Calédonie, pouvaient voter. L'État a proposé effectivement 7 ans et le mouvement indépendantiste a proposé 10 ans. Et donc le mouvement indépendantiste, les responsables élus indépendantistes, sont d'accord effectivement pour le principe effectivement de réajuster effectivement la liste provinciale. Mais avec une simple condition effectivement de temps, c'est-à-dire qu'il faut prouver effectivement qu'on est resté suffisamment longtemps effectivement en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir justifier effectivement de donner son avis sur les décisions politiques qui concernent à la fois les provinces mais aussi la Nouvelle-Calédonie.
Oui. Et tout ça dans le cadre d'un accord global et surtout pas passer en force sur ce seul élément de la réforme électorale. Alors, maintenant, je voudrais vous poser une question. Nous, ici, dans l'Hexagone, on voit assez systématiquement, ça s'est un peu calmé, là, ces deux derniers jours, mais on nous parle d'ingérence étrangère, et notamment de l'Azerbaïdjan. Alors, c'est quoi cette histoire ? Leurre ou réalité ?
Alors, en fait, c'est à la fois à l'heure, c'est à la fois à l'heure et puis aussi un fantasme qui circule déjà depuis des années. Dans les années 80, pendant les événements de 84, la droite commençait à pousser des cris d'orfraie en disant que le mouvement indépendantiste n'avait aucune légitimité et qu'elle était soutenue effectivement par le réseau communiste. Par l'URSS, puisqu'à l'époque, c'était bien avant la chute du mur de Berlin. Et donc, les chars russes allaient débarquer, effectivement, à la place de côté. C'était tellement grotesque que la plupart des indépendantistes ne répondaient pas à ce genre de fantasme. Et là, ils nous ressortent, effectivement, le même délire et le même fantasme, tout simplement parce que le congrès de l'UQTD, le président de la Nouvelle-Calédonie, donc, a signé un mémorandum. Un mémorandum, c'est simple, c'est juste un accord non contraignant qui consiste effectivement à symboliquement marquer des relations effectivement de coopération ou d'amitié, sans plus. Donc voilà. Et pourquoi l'Azerbaïdjan ? Parce que l'Azerbaïdjan a été, avant l'Ouganda, avait la responsabilité de la présidence du mouvement des non-alignés. Et comme on le sait, le FNLKS cherche effectivement, depuis le processus référendaire, veut constituer effectivement un soutien au niveau international. Et donc, pour les démarches, effectivement, pour avoir accès à certains dispositifs et moyens au sein de l'ONU, et donc, essaye de se créer des partenariats, quoi. Donc avec un certain nombre de pays, quoi. Mais c'est pas le premier mémorandum, hein. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a, sous la houlette de Rock ou Hamilton, a signé des mémorandums avec les îles Salomon, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec la Corse, qui est un département de l'Hexagone, avec la Catalogne, avec Bruxelles, etc., quoi. Donc c'est à la fois ridicule et grotesque, effectivement, de nous accuser, effectivement, d'accointance avec l'Azerbaïdjan, alors que en septembre 2022, Louis Mapou, qui est président du gouvernement, a été invité au sommet des pays insulaires du Pacifique, organisé par les États-Unis à Washington. Mmh. Et là, on n'a rien entendu, quoi. Alors qu'on aurait pu effectivement être accusé de collusion avec le grand Satan du capitalisme.
Ouais,
ouais. Donc c'est à la fois grotesque, mais qui fait les choux gras effectivement des émissions comme CNews ou BFM, etc., quoi.
Et, oui.
Et c'est une façon aussi à la fois de décrédibiliser. Mais de criminaliser, puisqu'on accuse effectivement le mouvement indépendantiste, ou particulièrement le CCAT, de terrorisme, d'action, de factieux, etc. Enfin,
ouais,
donc voilà.
Absolument.
Donc c'est tellement grotesque qu'on essaye effectivement de ramener sur l'enjeu politique qui nous intéresse, c'est-à-dire de discuter sérieusement de l'avenir institutionnel et politique de la Nouvelle-Calédonie, mais en gardant effectivement l'ossature et le fondement même de l'accord de Nouméa. C'est-à-dire que c'est vraiment un accord important pour nous pour pouvoir effectivement pouvoir se projeter dans l'avenir.
Et dites-moi, François, nous, on entend aussi, c'est dans la bouche de Nicolas Metzdorf, le député caldoche, rapporteur de la loi, et Sonia Baques, caldoche, présidente de la province sud et ex-secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, vous le rappeliez, sont des gens élus, responsables. On entend dans leur bouche des propos du style que les Caldoches seraient victimes d'un racisme anti-blanc.
Oui, bien sûr. Donc c'est toujours la même inversion que dans les années 80, Jacques Lafleur, qui était aussi le chef suprême de la droite coloniale, accusait le FLNKS. D'abord, le Front indépendantiste à l'époque, il y a la création du FLNKS en 81. Nous accusait effectivement d'un mouvement raciste. Alors on sait pertinemment qu'il s'agit d'une inversion. C'est-à-dire que ce qu'ils nous accusent, c'est ce qu'ils nous ont fait subir depuis des décennies. Et c'est aussi ridicule parce que nous avons subi effectivement un système effectivement complètement ségrégationniste en Nouvelle-Calédonie, enfin en tout cas les Kanaks en particulier, qui est la loi de l'indigénat. C'est-à-dire que le parquage dans les réserves, l'interdiction effectivement de circuler librement sur tout le territoire, qui s'est terminée symboliquement en 1947, et en fait les conséquences de l'indigénat ont continué jusque dans les années 50. Donc voilà. Mais socialement, le racisme est illustré effectivement par la précarisation de la population, pas uniquement que la population kanak, mais la population océanienne. Il y a vraiment une répartition complètement sociale, et puis des discriminations effectivement à l'embauche, des discriminations d'accès effectivement à des boîtes de nuit, des discriminations effectivement en termes d'emprunt. Donc la possibilité effectivement de pouvoir on est confronté effectivement à cette réalité, même si les indépendantistes ont pu effectivement gèrent actuellement effectivement des institutions, mais il y a toujours ce comportement, il y a toujours je dirais pas des séquelles de la colonisation, mais cette perversion effectivement de rapport de domination, quoi.
Ok. Alors on arrive à la fin de notre entretien, François. Alors aujourd'hui, surtout à Nouméa, le Grand Nouméa, la violence a ressurgi. La violence des milices armées et loyalistes, il faut quand même le dire, répondant à celle des jeunes des quartiers populaires de la capitale. Alors comment on peut en sortir ? Vous avez malheureusement 2 minutes.
Alors comment en sortir ? Que l'État reprenne effectivement sa position d'arbitre, qu'il assume sa responsabilité qui était engagée effectivement dans l'accord de Matignon, Odino et l'accord de Nouméa, c'est-à-dire la position d'arbitre, mais aussi qu'on remette un peu de sérénité à la seule condition que Macron essaie d'avoir une idée un peu plus précise de l'impartialité, quoi.
Il va falloir qu'il se mette à la hauteur de Rocard ou de Jospin.
Oui. Alors on n'attend pas grand-chose effectivement de sa visite en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il vient quand même avec deux personnes qui posent problème, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur Darmanin et le ministre de la Défense, anciennement ministre de l'Outre-mer, le Cornu, quoi. Donc je vois pas comment il pourrait dialoguer ou apporter effectivement avoir une certaine sérénité dans les discussions. Donc on est un peu effectivement un peu en attente de ce que Macron va pouvoir déclarer, mais on a vraiment peur effectivement qu'il fasse une connerie, quoi, comme d'habitude, quoi. Donc oui. On voit effectivement les mouvements sociaux, mais de manière générale effectivement avec Macron c'est vraiment marcher sur des œufs, quoi. Voilà.
Ben je vous remercie beaucoup François Carré, et je vous propose d'ailleurs qu'on se retrouve un petit peu plus tard pour suivre le déroulé des événements, et en espérant vraiment de tout cœur vraiment que cette violence s'arrête et que on revienne à l'origine de ces accords, c'est-à-dire des accords de décolonisation.
Oui. Ah oui, ce qui est important, c'est ça, c'est effectivement notre objectif, c'est que l'État continue effectivement son processus de décolonisation, puisque rien n'est terminé.
Merci, à bientôt.
Ok, merci, au revoir.
Merci beaucoup Gérard pour cette interview. Dans 30 secondes, c'est encore toi au micro avec le guide du Bordeaux colonial. C'est quoi le programme ?
Ouais, c'est une l'essentiel des missions est consacré à la présentation du de Olivier Lecourt-Grand.